France Inter. Bonsoir Claire Servageant.
Bonsoir Marine et bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un mot, désescalade.
Espéré par toutes les chancelleries entre l'Iran et Israël après les frappes qui ont touché le sol iranien ce matin, toujours pas de commentaires de la part d'Israël quand les États-Unis assurent qu'ils ne sont pas impliqués. On fait le point sur la situation au Moyen-Orient dès le début de ce journal.
Et les autres titres, Kevin ?
Une conférence de la France insoumise hier, puis une manifestation antiraciste prévue ce week-end à Paris. Les autorités multiplient les interdictions d'événements politiques.
On en parle avec le juriste spécialiste des libertés publiques, Nicolas Hervieux, invité de ce journal.
L'autoroute A13 fermée au moins jusqu'à lundi entre Paris et Vaucresson. La route est fissurée. Nous serons en Bourgogne où le gel inquiète les viticulteurs. Et puis on jouera du violoncelle en mode électronique à la fin de ce journal.
À 18h20, une semaine en France avec la sociologue du sport Béatrice Barbus. Elle publie Dirigeante sportive et plafond de verre aux éditions Les Sportives, à moins de 100 jours des Jeux. On parlera également des JO en général et du handball en particulier avec celle qui est aussi vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball. À 19h, ce sera le journal d'Éric Delvaux. À 19h20, le téléphone sonne. À l'heure de la déclaration de revenus, quel est notre rapport à l'impôt ? 01 45 24 7000, vous pouvez déjà appeler, le standard ouvre à l'instant.
France Inter.
De Londres à Pékin, de Bruxelles à Ankara, le monde entier appelle ce soir à la retenue, au calme ou au sang-froid, ou la désescalade militaire, comme vient de le dire Paris, après les explosions entendues tôt ce matin dans le centre de l'Iran, moins d'une semaine après la frappe massive lancée par Téhéran en drone et en missile contre Israël. Un appel au calme suivi aussi par Washington, allié d'Israël par la voix de son chef de la diplomatie, Anthony Blinken.
Je ne vais pas en parler, sauf pour dire que les États-Unis n'ont été impliqués dans aucune opération offensive. Ce sur quoi nous nous concentrons, ce sur quoi le G7 se concentre, est la désescalade. On cherche à apaiser les tensions et désamorcer toute escalade potentielle. Israël a été la cible d'une attaque sans précédent. Notre objectif est bien sûr de garantir qu'Israël puisse se défendre efficacement. Mais dans le même temps, on veut amener à la désescalade et éviter tout conflit. Cela reste notre priorité.
Anthony Blinken cet après-midi lors d'une conférence de presse à Capri où se tient le sommet du G7 quand le ministre des Affaires étrangères français dit lui, je cite, que ce ne serait dans l'intérêt de personne et ça ne ferait qu'accroître l'instabilité et l'insécurité au Moyen-Orient en parlant donc d'une éventuelle escalade militaire que Paris appelle à cesser. Côté israélien, toujours pas de revendication. Téhéran de son côté minimise cette frappe indiquant qu'il n'y a pas eu de gros dégâts. Des sources cité notamment par la presse américaine attribue bien cette attaque à Israël, mais son impact semble à court terme limité. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Correspondant de France Inter au Proche-Orient. Thibault, ce n'est pas la première fois que l'on assiste à cette méthode et à ce no comment israélien lorsqu'il s'agit de frappes contre l'Iran ou ses alliés.
Déjà le 1er avril dernier, Israël n'avait pas revendiqué la frappe sur l'annexe du consulat iranien de Damas qui avait mis le feu aux poudres. La méthode ne change pas et ça fait des années que ça dure, avec des assassinats de scientifiques importants ou comme il y a 2 ans, l'explosion d'une usine de drones dans la ville de Kermanshah, c'est à l'ouest du pays. Et pourtant, le calendrier interpelle. La frappe de la nuit dernière intervient seulement 5 jours après l'attaque iranienne. Difficile de dissimuler une riposte directe, alors que jusque-là, l'État hébreu préférait surprendre son adversaire. Et puis 2 acteurs ont divulgué ce qu'il faut bien considérer désormais comme un secret de polichinelle. Les États-Unis, par la voix d'un diplomate, ont affirmé qu'Israël avait prévenu son allié. Et puis le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a évoqué ce matin dans un message sur le réseau X la faiblesse de la réponse de l'État hébreu. Un aveu rare, très critiqué en Israël, qui nuit clairement à la volonté du gouvernement de continuer à dissuader sans en assumer les conséquences.
Thibault Lefèvre, correspondant de France Inter au Proche-Orient. L'actualité à l'étranger ce soir, c'est aussi l'Ukraine qui ne peut plus attendre que des décisions soient prises. Voilà le message lancé ce soir par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui s'adressait à distance à ses alliés de l'OTAN alors que le Congrès américain vote demain sur une enveloppe de plus de 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. l'Ukraine, toujours bloquée par une partie des élus républicains. Et alors que ce matin, 8 civils sont morts dans une frappe russe sur la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. L'Ukraine au menu des discussions également du G7. On l'évoquait, réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe aujourd'hui. Le G7 qui dit, je cite, sa forte préoccupation sur l'aide apportée à la Russie par la Chine, notamment des transferts de matériaux pouvant servir à fabriquer des armes. La Chine devrait assurer que ce soutien cesse, lit-on dans le communiqué du G7. La Chine, au cœur des élections législatives des îles Salomon cette semaine. Cet archipel du Pacifique, où vivent un peu plus de 700 000 habitants, ils étaient appelés aux urnes mercredi. On attend toujours les résultats qui pourraient avoir de grandes conséquences sur la sécurité de toute la région, parce que ces dernières années, Pékin tente de se rapprocher des îles Salomon, sauf qu'en fonction du Premier ministre qui sera désigné, les cartes peuvent être rebattues, Gwendal Lavina.
Pendant 30 ans, les Salomon, 700 000 habitants répartis dans des centaines d'îles, ont entretenu un partenariat avec Taïwan. Mais en 2019, l'actuel Premier ministre décide de se rapprocher de la Chine. Pierre-Christophe Pantz est chercheur associé en géopolitique en Nouvelle-Calédonie. Il explique que Pékin y a beaucoup gagné.
C'était un peu une prise de guerre, pouvoir mettre dans son escarcelle un archipel à quelques milliers de kilomètres seulement des côtes australiennes et néo-zélandaises. Et puis être dans cet arc mélanésien qui était jusqu'à présent sous influence plutôt des pays occidentaux, à savoir plutôt l'Australie et les États-Unis.
L'accord de sécurité signé en 2022 par les deux États prévoit la formation des forces de sécurité salomonaises. Mais ce qui inquiète les Occidentaux est un autre projet chinois rendu possible par le texte.
C'est effectivement la perspective d'une présence militaire. On parle souvent de porte-avions, comme si les îles Salomon pouvaient être un porte-avions dans le Pacifique.
Reste à savoir si les électeurs davantage préoccupés par la situation économique catastrophique du pays ont donné raison au Premier ministre candidat à sa réélection. L'opposition a en tout cas fait du scrutin un référendum pour ou contre le rapprochement avec Pékin et prévoit de revenir sur l'accord si jamais l'un de ses candidats est élu.
Gwendal Lavina de la rédaction internationale de France Inter. L'homme qui s'est introduit avec des grenades factices aujourd'hui au consulat d'Iran à Paris est en garde à vue ce soir, interpellé quelques heures après son acte. Le quartier du Trocadéro où se trouve le consulat a dû être bouclé plusieurs heures.
Ils contestent l'interdiction de leur manifestation.
Les organisateurs de la marche contre le racisme et l'islamophobie, initialement prévue dimanche à Paris, à l'appel de près de 80 syndicats, associations ou partis politiques, dont la France Insoumise, attaque ou encore des collectifs contre les violences policières. Ils ont déposé un recours en justice alors que la préfecture de Paris invoque pour l'interdiction, je cite, de forts risques de troubles à l'ordre public. Des décisions qui interrogent Marine Tondelier, la secrétaire nationale du Parti Les Écologistes.
Le rôle du ministère de l'Intérieur et des autorités, c'est de permettre aux manifestations de se dérouler dans la sécurité. C'est pas de les interdire pour des raisons de sécurité. Là, la difficulté, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on se rend compte qu'au lieu juste de faire en sorte que les manifestations puissent bien se passer, ils en arrivent à juste interdire la manifestation. Je pense qu'il y a de quoi sincèrement et légitimement s'interroger sur le fait qu'il devient de plus en plus compliqué de manifester dans ce pays et qu'il semble y avoir une forme de contraction progressive de certaines libertés fondamentales, je dirais. Les militants, les syndicalistes sont criminalisés. Et puis là, maintenant, le droit de manifester qui se restreint progressivement. Évidemment que la sécurité des manifestations doit être garantie, mais si la seule manière que les autorités ont trouvé de garantir la sécurité des manifestants, c'est d'interdire les manifestations, c'est un terrible échec et c'est compliqué pour la liberté de manifester qui est l'un des fondamentaux de nos démocraties, de la nôtre en France comme des autres dans le monde.
Marine Tondelier au téléphone d'Élodie Forêt. C'est la deuxième annulation d'un événement politique porté par des organisations de gauche après la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan interdite hier à Lille. La militante franco-palestinienne qui, par ailleurs, on l'apprend ce soir, est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Ça concerne des propos tenus sur les réseaux sociaux fin 2023. LFI dénonce, je cite, une tentative d'intimider inacceptable et ces interdictions, on y revient avec votre invité, Claire.
Effectivement, interdiction de manifestation et de rassemblement. Quelles sont les règles en la matière? Bonsoir Nicolas Hervieux.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, spécialiste des libertés, enseignant à Sciences Po. Alors, comment apprécier ce risque de trouble à l'ordre public? C'est aux autorités d'en décider. Elles ont toute latitude pour le faire?
Elles n'ont pas toute latitude parce qu'il faut se souvenir du principe essentiel. D'abord, le principe, c'est la liberté, et notamment la liberté de manifester. Ce n'est que par exception que celui qui a le pouvoir de restreindre la liberté de manifester peut intervenir, en l'occurrence le préfet, le titulaire du pouvoir de police, et il ne peut le faire que dans des circonstances très précises, très limitées. En particulier, il ne peut prendre que des mesures de restriction pour prévenir des troubles à l'ordre public, à un risque de trouble à l'ordre public. Et sa mesure d'interdiction ne doit intervenir qu'en tout dernier recours. C'est-à-dire que le préfet doit d'abord s'assurer que la manifestation puisse se dérouler sans risque de trouble pour l'ordre public. Et l'interdiction n'est vraiment que la mesure la plus radicale et elle doit être strictement justifiée par des troubles matériels, c'est-à-dire véritablement un risque de désordre, de débordement, ou que des infractions pénales type des discours de haine soient proférées lors de la manifestation. Mais ça reste une appréciation très restrictive et le juge veille strictement en principe, à tout le moins s'il est saisi, à ce que l'interdiction ne soit pas excessive.
À condition que le juge soit saisi en temps et en heure. On sait qu'à Lille, par exemple, il n'a pas pu se prononcer hier.
Et c'est toute la difficulté, c'est une pratique assez problématique de ces dernières années. Les préfets, les maires prennent des décisions au tout dernier moment qui potentiellement sont grossièrement illégales et le juge n'a pas le temps d'être saisi, n'a pas le temps d'intervenir et donc n'a pas le temps de suspendre l'interdiction avant l'événement. C'est un peu le sentiment qu'a pu laisser l'épisode d'hier où la décision du préfet a été prise très tardivement concernant la conférence de Jean-Luc Mélenchon et le juge qui a été saisi à peine une heure et demie avant l'échéance dit « moi je ne peux pas organiser un débat contradictoire à si près de l'échéance, donc je ne peux pas intervenir ». Et ça pose une vraie question des décisions potentiellement grossièrement illégales qui ne peuvent pas être suspendues en justice à temps.
Vous qui avez l'habitude, Nicolas Hervieux, est-ce que vous diriez que les interdictions sont de plus en plus nombreuses en ce moment ?
Alors c'est très difficile de répondre, il faudrait faire une analyse statistique précise, mais on a tout de même le sentiment qu'il y a un petit dévoiement, peut-être même un gros dévoiement, allons-y franchement, dans l'usage par les titulaires de pouvoir de police, les préfets en particulier, de leur pouvoir avec des liens, avec des mots d'ordre politiques, dans la mesure où le préfet est à la fois le respect de l'ordre public et de la loi, mais aussi le relais direct du gouvernement. On peut s'inquiéter que le titulaire de ce pouvoir prenne des décisions souvent très liées au mot d'ordre politique, en particulier en pleine campagne électorale. Et ça, normalement, le juge a vocation à en tenir compte, en particulier pour préserver davantage la liberté de manifestation. Mais encore une fois, faut-il qu'il soit saisi en temps et en heure ? C'est une vraie question qui se pose.
Alors, il y a ce qui se joue devant les tribunaux administratifs et puis aussi les poursuites devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. LFI, on l'a entendu, annonce que Rima Hassan, cette candidate franco-palestinienne, est convoquée devant la justice pour apologie du terrorisme. La France insoumise dit intimidation inacceptable. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur le plan juridique ?
Alors, c'est toujours très difficile de déterminer quelles seront les chances d'une poursuite pénale de cette nature. Ce qu'on peut dire de façon générale, en tout cas, sans se prononcer sur ce cas en particulier, c'est que l'apologie de terrorisme est une infraction qui elle-même présente certains dangers pour la liberté d'expression. Ça a déjà été largement établi par différentes décisions de justice, notamment du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne, qui ont validé le principe de l'apologie de terrorisme, mais ont signifié qu'il y avait des risques potentiels d'usage de cette infraction pour réduire la liberté d'expression. Il faudrait effectivement faire attention à ce que le fait de lancer des poursuites pénales, là encore à l'initiative du parquet, qui n'est pas indépendant de l'exécutif en pleine période électorale. Il faudrait faire attention à ce que les outils judiciaires, tout comme les outils administratifs, ne soient pas dévoyés à des fins de lutte politique. Ce serait un dévoiement de la démocratie et de notre état de droit.
Merci beaucoup Nicolas Hervieux, juriste, spécialiste des libertés et enseignant à Sciences Po, pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu aux questions de France Inter.
L'actualité ce soir, c'est aussi la mise en examen de deux adolescents de 14 et 15 ans pour assassinat après la mort de Philippe, 22 ans, battu à mort à Grande-Synthe dans la nuit de lundi à mardi. Le plus jeune est placé en détention provisoire. Le parquet de Dunkerque retient la préméditation et confirme que le jeune homme a été victime d'un guet-apens après un rendez-vous fixé sur une application de rencontre. La procureure de Dunkerque a d'ailleurs indiqué qu'une enquête est en cours concernant d'autres agressions similaires. Ce matin, 1500 personnes ont participé à une marche blanche à Grande-Synthe en la mémoire de Philippe.
Voilà de quoi perturber un peu les retours de vacances des Franciliens.
Qui s'achèvent ce week-end alors que celle des élèves de la zone B Roubaix commence ce soir. La perturbation, c'est donc la fermeture de l'autoroute A13 qui relie la capitale à la Normandie, axe majeur entre Paris et Vaucresson dans les Hauts-de-Seine. Pour raison de sécurité, une fissure est apparue sur la chaussée hier soir. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir.
On l'apprend à l'instant, l'autoroute ne va pas rouvrir avant lundi au mieux.
Et oui, parce que la fissure est très impressionnante, plusieurs mètres de long, 80 cm de profondeur. Elle est située juste avant l'entrée du tunnel de Saint-Cloud dans le sens Paris-Provence. Et depuis ce matin, eh bien, les techniciens de la direction des routes d'Île-de-France sont sur place pour tenter de déterminer l'origine de cette fissure. Pour le moment, ils n'ont pas encore rendu leur verdict. Ils vont sans doute déclencher des travaux d'urgence dans les heures prochaines. Et du côté des associations d'automobilistes, eh bien, on pointe du doigt le manque d'entretien de ce viaduc qui a été mis en service en 1974. Mais on évoque également des infiltrations d'eau, ce qui d'ailleurs avait déjà été le cas en 2022, mais cette fois à l'intérieur du tunnel de Saint-Cloud. Donc vous l'avez dit, le tunnel et toute la portion comprise entre le boulevard périphérique et le tunnel de Saint-Cloud vont rester fermés dans les deux sens jusqu'à lundi. Une fermeture qui tombe au plus mauvais moment, puisqu'on s'attend à un très fort trafic ce week-end, notamment dimanche soir, pour les retours des vacances scolaires.
Philippe Lefebvre, spécialiste transport de France Inter. Pour ce qui est de la météo des vacances et du week-end, c'est Sébastien Léas qui vous la donnera dans quelques minutes. Ce qui est sûr, c'est que les températures vont rester fraîches et même dangereusement se rapprocher de zéro par endroit dans les prochains jours. Il pourrait donc y avoir du gel et ça inquiète évidemment dans les vergers ou encore dans les vignes puisque les bourgeons sont sortis. Alors les viticulteurs s'organisent pour lutter contre ce gel entre bonne vieille technique et innovation, comme ici à Santenay près de Beaune, reportage Noé Chaillot.
Nous sommes dans les vignes de Jean-Christophe qui innove cette année. Depuis mercredi, il pulvérise un nouveau produit naturel à base de pommes.
Un produit qui permet de renforcer la plante au niveau de ses organes vitaux pour se ressaisir après la période de froid. Ça lui permet de lutter jusqu'à à peu près moins 2 de température négative, quoi.
C'est un produit naturel mis au point par des vignerons du Val-de-Loire. Jean-Christophe apprend encore à bien doser.
Faut pas trop mettre d'eau parce qu'autrement ça dilue trop et vous avez moins d'efficacité. Tu vois à peine, t'as juste une petite couleur marron. Clair. Puis ça sent pas la pomme non plus.
Mais pas question de renoncer à une solution qu'il maîtrise et connaît par cœur, la bougie en paraffine.
Avec un chalumeau, on allume le carton qui enflamme la bougie. Le but de la bougie, c'est de réchauffer l'air, ça libère des calories qui réchauffent l'atmosphère.
La bougie est efficace. Le produit naturel, lui, doit encore faire ses preuves, mais le viticulteur veut lui laisser sa chance.
On fait un essai, on verra bien ce que ça va nous apporter et la satisfaction qu'on aura.
Et si c'est concluant ?
Eh ben on continuera l'année suivante. Et on en fera peut-être un peu plus, mais on ne supprimera jamais les bougies.
Quelle que soit la solution, Jean-Christophe a un outil incontournable. Une alarme qui sonne sur son téléphone lorsque le thermomètre passe en dessous de 0 degré.
À Noé Chaillot, France Bleu, Bourgogne. En football, d'un côté l'Europe, en ligne de mire, de l'autre la survie. Dans l'élite, voilà les enjeux du premier match de la 30e journée de Ligue 1 qui commence ce soir entre Nice 5e et Lorient 16e et barragiste. Coup d'envoi à 21h. Allez, on termine ce journal en musique, non pas avec l'incontournable Taylor Swift qui a sorti son nouvel album aujourd'hui, un double album même, c'était la surprise de la chef pour le plus grand bonheur de ses fans. Non, ce soir, je vous fais découvrir Paul Colomb, son quintette et son violoncelle avec lequel le musicien français se balade entre classique, musique du monde, électro et même punk. Stéphane Capron l'a rencontré.
Paul Colomb a commencé le violoncelle à 5 ans. Adolescent, il se tourne vers le jazz manouche, le métal, le reggae. De ce brassage musical est né cet album, celui d'un musicien qui est aussi un grand voyageur.
Le déclic en fait est arrivé à Bangalore en Inde, où j'allais donner des cours de violoncelle et de musique de chambre, et aussi prendre des cours de musique indienne. Et là, j'ai vraiment eu le déclic quand je suis rentré, j'ai acheté mes premiers loopers, et j'ai commencé à écrire. Et le premier morceau, la première mélodie qui est venue est très inspirée de musique indienne.
Pour enregistrer l'album, Paul Colomb a ajouté aux 5 violoncelles des pédales à effet, ce qui donne ses harmonies électro. L'on reconnaît par moments des phrases musicales empruntées au baroque. Plus l'on progresse dans l'écoute, plus Paul Colomb nous emmène vers des contrées musicales inattendues.
L'album, je l'ai un peu pensé comme un grand développement qui partirait d'un point de départ très acoustique, très naturel, et petit à petit, on part dans des choses beaucoup plus électro jusqu'à arriver à des morceaux extrêmement saturés. Un hommage à Rage Against the Machine avec le morceau punk notamment. Donc vraiment, c'est travailler le violoncelle sous un angle très progressif qui va très très loin dans l'extrême.
La preuve que la musique classique opère un sacré virage avec cette génération d'artistes qui n'a peur de rien.
Stéphane Capron. L'album de Paul Colomb s'appelle Bleu Quintet, disponible sur toutes les plateformes, et il nous prouve donc que le punk au violoncelle, c'est possible.